Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mise à mal.
Oh, il était bien celui-là. Il était différent d'habitude et moins guttural.
Oh, c'est beau.
La mise à nu de Théo.
Très bien aussi.
Merci.
Qu'est-ce qu'on est doué.
Toi qui es doué.
Pardon, c'est toi.
Ah non, ok. Salut Théo.
Salut Flo.
Comment vas-tu?
Eh bah, ma foi, plutôt bien.
Eh bah, tant mieux. Moi aussi.
Je t'ai pas posé la question.
Oh là là. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier, Théo.
Complètement. Un format innovant.
Ouh.
Disruptif.
Parce que c'est un format portrait. Et on commence par toi, où je vais mener ton entretien pour creuser un peu ton expérience en profondeur.
C'est ça. Et on sait pas vraiment de quoi ça va parler, mais on sait que ça va être sur moi.
C'est déjà un bon point de départ. Et dans 2 semaines, ça sera la configuration inverse. C'est Théo qui me posera des questions sur ma vie.
Et quel est le nom de ce format que j'aime beaucoup, que tu as trouvé?
Oh, arrête. Tu peux le redire que c'est moi qui l'ai trouvé?
Le format que tu as trouvé, Florian?
Non, non.
Le génial format que tu as trouvé.
Oui. Mise à nu. Pourquoi mise à nu? Parce que déjà, tu vas te mettre à nu. Tu l'es littéralement. Tu n'as pas de vêtements.
Exactement.
Ah, tu feras. Et parce que l'acronyme, ça fait man. Oh. Et qu'on est un peu une émission sur les hommes.
Sur la masculinité, quelque part.
Okay, tout voilà. Est lié. Hein, c'est quantique, en fait. C'est une émission quantique. Je voulais te demander si t'étais pas trop impressionné que je t'interviewe, parce que je suis quand même journaliste de France Inter maintenant.
un peu la pression.
Juste avant ça.
Un petit verre, déjà.
Oh, bah déjà, trinquons-nous. Et je voudrais trinquer à Nadia Dame et Ophélie Vivier de l'émission Modern Love de France Inter, parce que c'était vraiment un plaisir d'intervenir, et puis qu'elle présente Mise à Mal en bonne et due forme. Donc merci à elle, et on vous applaudit avec le cœur, et on vous trinque.
Oh bah, bon, exactement.
Ah, tu remarqueras que Nadia a dit qu'on partait dans tous les sens. Donc je pense que notre...
Peut-être qu'on n'est pas très structuré, peut-être.
Tentative de structure n'est pas passée, n'a pas été remarquée en tout cas. Eh ben, moi j'ai noté mes petites questions pour aujourd'hui.
Oui, alors j'ai essayé d'y répondre, d'y réfléchir en tout cas.
Oui.
Il y en a, je suis encore un peu en doute.
Mais alors voilà, parce qu'en fait le format c'est que j'ai envoyé mes questions à Théo pour qu'il se prépare, un peu pour creuser en profondeur, mais voilà, les relances ou les petits moments où je vais
me surprendre, voilà,
me décontenancer, telle une cruche pleine qu'on viderait.
Waouh.
Qui perdrait sa contenance.
Ah d'accord, j'ai cru que t'étais une cruche. Ok.
Peut-être.
Bah alors du coup Théo, c'est quoi être un mec pour toi?
Alors ça pour le coup j'ai bien réfléchi. Pour moi être un mec, et c'est grâce au cheminement parcouru grâce au podcast, pour moi être un mec c'est être vraiment un mec, c'est être capable de parler de ses sentiments les plus profonds, parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus difficile, pour en avoir fait l'expérience, c'est beaucoup plus difficile d'être un mec et de fragiliser son image en parlant de sentiments ou de doutes ou de peurs que de prétendre être un mec en se confortant dans un rôle. Et pour moi, être un mec aujourd'hui, en tout cas dans cette société qui souffre de plus en plus sur les sentiments personnels et le développement de soi, c'est beaucoup plus être capable de se tourner vers l'intérieur que de se tourner vers l'extérieur. Je sais pas si ça fait sens.
Ça fait sens. Et qu'est-ce qui est... Enfin, tu dis... qu'on rejette un peu, enfin les normes en tout cas, c'est de rejeter la forme de fragilité qu'on pourrait manifester quand on parle de ses émotions ou peut-être de ses fêlures. Ça vient d'où cette croyance du coup de fragilité
perçue par la société, tu veux dire?
Bah toi, pourquoi tu vois ça comme une fragilité de parler de tes émotions?
Aujourd'hui, je le vois plus comme une fragilité. Je l'ai vu comme une fragilité parce que comme nous tous, on est influencé par notre environnement et par la société dans laquelle on vit, dans laquelle les valeurs associées en fait à, justement au bah un peu au développement personnel, au doute, à la peur, sont des attributs qui sont traditionnellement plus attribués à la femme en fait. Il y a toujours des images, mais complètement bêtes, mais tu vois, de la femme qui monte sur un tabouret parce qu'elle a peur d'une souris, la femme qui pleure, ce genre de choses. Qui sont des, en fait, si tu réfléchis, c'est que des réactions qui sont liées à un regard à l'intérieur de soi. Mmh. On a peur de quelque chose, mais c'est au fond de nous. Pareil quand on pleure, c'est nos émotions qui font surface. Voilà. Et au contraire, les attributs qu'on prête, les émotions qu'on prête à l'homme, c'est plutôt la colère ou alors le contrôle, le fait de prétendre d'être un bloc, de ne rien laisser paraître. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est on a tous les mêmes émotions, sauf que dans les stéréotypes qui sont attribués au genre aujourd'hui, il y a deux façons de représenter ces émotions. L'une, c'est de les faire sortir et même de les exacerber dans le cadre des stéréotypes qui entourent la féminité, j'imagine. Et l'autre, au contraire, c'est de les enfouir et de les taire dans le cadre des stéréotypes sur la masculinité.
C'est très juste ce que tu as dit, je pense, sur le contrôle. Il y a comme l'idée que l'homme devrait garder le contrôle sur lui pour pouvoir garder la face quant au monde extérieur, quoi. Il faut qu'il soit toujours en contrôle de son image. À quel moment, donc singulier ou pluriel, si tu en as plusieurs, hein, mais pas d'injonction à les collectionner, à quel moment tu t'es senti éprouvé dans ta masculinité ?
Assez souvent, en fait. Parce que, du coup, je pense qu'on... On l'aura compris à travers les podcasts, j'ai une vision un peu particulière de la chose aussi. Je dis pas qu'elle est mieux, je dis juste qu'elle est différente.
En quoi elle est différente ?
De la majorité. Bah, tu vois, c'est le fait de considérer que c'est plus masculin que d'accepter de parler de ses faiblesses, plutôt que de parler que de ses forces. Je pense que c'est pas la majorité des personnes qui pensent ça. Et du coup, je vois bien, en fait, c'est juste quand je sens ma masculinité éprouvée, c'est sur des regards ou des questionnements d'autres quand je dis, par exemple, on parle des larmes, ou on parle de ce genre de choses, ou je suis aussi très honnête, et quand je dis, j'ai peur de ça, j'ai l'impression que, enfin, parler de mes sentiments, ou alors même me mettre à nu, enfin, en parlant à une fille, en lui disant, en fait, j'ai des sentiments pour toi, ou ce genre de choses, on sent bien que les gens en face n'ont pas l'habitude de ce genre de discours. Et sinon, pour être un peu plus terre à terre pour parler de situation, une fois où ma masculinité a beaucoup plus été éprouvée, mais dans un sens traditionnel, ma masculinité au sens des stéréotypes un peu, c'était avec, je me souviens d'un moment avec mon ex, où ça se passait, c'était sur la fin, donc ça se passait pas forcément bien. Et j'avais beaucoup d'affection pour elle, j'étais souvent en train de réclamer ou de lui faire des bisous ou ce genre de gestes. Et un jour, j'ai voulu lui faire un bisou sur la tempe, et elle a détourné la tête, sans rien dire. Juste ou peut-être en soufflant au passage, tu sais, genre vanner, quoi. Parce que c'était le bisou de trop que j'essayais de lui donner, ou je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, ça a vraiment été juste pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que je me suis pas emporté ni rien, mais ça a été une image qui veut en dire mille autres, en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis complètement ma copine. Donc avec ma concubine, littéralement celle avec qui tu passes du temps, quoi,
ouais.
M'a complètement désexualisé sur ce moment-là,
ouais.
Et même déshumanisé, parce que le fait de juste de tourner la tête en soufflant, c'est même pas prendre en compte ma présence, c'est faire comme si j'étais même pas là, et qu'il y avait un courant d'air, quoi, qui dérange. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, là je suis même plus un homme, je suis même pas un individu, je suis juste une nuisance, quoi, pour elle. Et là, ça m'a fait beaucoup de mal, alors que c'était une action anodine, et que je pense que de sa part ou d'autres personnes, j'ai essuyé des choses qui sont plus fortes, mais ce petit geste-là, il était très riche en sens, et il m'a fait beaucoup de mal.
Et t'as réagi comment sur le moment ?
Je pense que j'ai soufflé aussi, que ça m'a saoulé, et il y avait peut-être eu un silence, mais j'ai rien dit. Je disais pas grand-chose.
Et ça, je comprends que ça a été affecté émotionnellement. Mais en quoi ça a été une atteinte dans ta masculinité ?
Ouais, parce que moi, ce bisou que je voulais faire, c'était une manifestation d'un désir.
Ouais.
D'un désir physique, donc par extension d'un désir sexuel. Qui dit désir sexuel, dit désir qui se rapporte au genre aussi. Mon genre, en l'occurrence, c'est le genre masculin, donc masculinité.
D'accord. Ça me fait penser à des trucs, je peux divaguer ?
Bah oui.
Vas-y. Allez. Mais du coup, c'est quelque chose qui revient dans les entretiens et je me permets, parce que je te connais, qu'on en a pas mal parlé dans les podcasts. On l'avait survolé, cette question du désir, surtout sur l'épisode à 45 degrés. Tu parlais du désir qui...
Je me souviens très peu de cet épisode.
Je m'en souviens absolument pas, moi. Je l'ai découvert en l'écoutant. Mais ce désir entre vous qui s'effilochait, j'ai l'impression que ça t'a vraiment entaillé en profondeur le fait que son désir disparaisse petit à petit et que t'aies à supporter son absence pendant aussi longtemps.
Oui, et en fait, le cœur du problème... Enfin, non pas que le désir qui s'effiloche n'en soit pas un, ça en fait partie, mais c'est surtout que dans cette relation, j'ai eu beaucoup de mal à parler de mes sentiments et de mon ressenti, et j'ai tué tout ça pour en pensant que ma relation allait en être meilleure et que en fait, vu qu'elle, elle allait pas bien, je voulais pas l'accabler en plus avec mon ressenti, mes émotions, ce que je pensais, ce qui m'énervait, ce qui m'attristait, ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a au final fait le plus de mal, parce qu'en fait, tu creuses une blessure mais en profondeur, mais toi-même en fait. Et l'autre est forcément, enfin, j'en ai vraiment jamais parlé directement à elle, ou alors de façon très surfacique, et même en minimisant les choses par rapport à ce que je ressentais vraiment et à quel point j'étais mal, pour pas que elle culpabilise, pour pas que ça ajoute à sa souffrance. Et du coup, en fait, en faisant ça, moi, je me creusais à l'intérieur, en fait. J'absorbais tous ces sentiments comme une éponge, et j'essayais d'améliorer la situation, mais les miens, je les rejetais au plus profond de moi, et je creusais le tombeau de notre relation, ça. Enfin, pour faire une métaphore un peu, mais
du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que, donc, tu dis que tu creusais, donc, quelque part, t'enterrais, quoi.
Ouais. Si on file la métaphore. Ça, c'était exactement dans les anciens, enfin, dans les stéréotypes de la masculinité. Je taisais ça. Je voulais pas, avouer que ça m'atteignait profondément de pas me sentir aimé par elle. Ou alors, quand je le faisais, je minimisais, mes propos et c'était très vite, je te comprends, machin, ok, on va essayer de faire ça, machin. Et à aucun moment, j'aurais dit des choses que, alors que j'ai pu les penser, de dire, mais des fois j'ai envie de me casser tellement je me sens pas aimé, en fait.
Tu lui as dit ça?
Non, jamais.
T'en as pas parlé avec elle?
Non. Bon, une fois que la relation est finie, qu'est-ce que tu veux?
Bah, moi je crois en la justice rétrospective.
Mais c'est pas une question de justice, parce que là,
justice émotionnelle, hein, t'as pas à la blesser pour avoir justice.
Ouais, mais en fait, la seule justice que je dois me faire, c'est envers moi-même, en fait. C'est pas son rôle, de la même façon que c'était pas le mien, de lire clairement, mais en moi, comme dans un livre ouvert, en fait.
Ouais.
À un moment donné, si tu t'ouvres pas, et si moi, volontairement, je voulais pas aborder ces sujets-là, elle avait aucune chance de mettre le doigt dessus, en fait. Donc, c'est pas une question de justice émotionnelle entre elle et moi, c'est une question de justice émotionnelle peut-être entre qui je suis aujourd'hui et qui j'étais à l'époque.
Et du coup, t'en apprends quoi aujourd'hui par rapport à qui t'étais à l'époque?
Que même si à l'époque ça me paraissait être la bonne solution, j'aurais jamais dû m'effacer au profit de mon couple, et j'aurais jamais dû aussi faire l'impasse sur mes émotions et mon ressenti et le garder pour moi. Et qu'en fait c'est débile parce que ça paraît si limpide maintenant que je le dis avec le recul. Mais au moment de notre relation, on parlait beaucoup, elle et moi, parce que je voyais qu'elle souffrait. Et donc, je l'aidais à me dire ce qui allait pas. Et c'est comme ça qu'on avançait. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je la réconfortais, on finissait par se dire tous les deux, mais c'est trop bien, tu vois, quand on parle de ton problème, on avance et on le résout, ou en tout cas, on l'atténue. Et à aucun moment, ce mode de fonctionnement-là, je l'appliquais à moi-même, en fait. Ouais. Et donc, c'est la seule chose que je retiendrai, c'est de dire les choses, en fait.
Et aujourd'hui, tu le fais?
Bah, je peux pas comparer avec le même cadre, vu qu'aujourd'hui, je suis plus en couple. Mais je dis plus les choses. C'est peut-être pas encore parfait, mais par contre, je suis capable, en fait, de pas m'oublier. Parce que derrière tout ça, il y avait aussi une question d'amour propre, en fait. Et clairement, moi, dans mon précédent couple, je l'aimais plus elle que je m'aimais moi,
ouais.
Ce qui explique l'effacement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu rétabli la balance et que je me laisserai moins oublier, en fait, au profit soit de mon couple, soit de l'autre personne. Et ouais, l'amour propre, c'est primordial à l'amour de l'autre, en fait.
Mais c'est ça, pour dire les choses à l'autre, il faut d'abord oser se les dire à soi-même. Et je pense que c'est ce que tu as appris à faire.
Et même pour être aimé et désiré, il faut aussi s'aimer soi-même, en fait, parce que ça renvoie une... En fait, c'est rigolo, tous les attributs un peu masculins qui sont intéressants, qui sont la confiance en soi, ce genre de choses, l'assurance, le fait d'être bien en fait. Ça, c'est des attributs masculins qui sont pas du tout néfastes ou négatifs, qui sont très bien vus par tous les genres en fait. Et ça, c'est des choses qui arrivent en s'aimant soi-même. Moi, je me mets pas moi-même. Donc en fait, c'est presque, je veux dire, presque normal, parce qu'il faut pas déconner, mais c'est, faut pas être étonné si la personne avec qui t'es en couple a du mal à te désirer, a du mal à t'apprécier, à t'aimer, quand au quotidien, quand elle te croise, elle voit que même toi, t'as pas confiance en toi, que même toi, tu t'aimes pas, tu t'apprécies pas, tu crois pas en toi. C'est très difficile d'être au contact de quelqu'un qui est un peu dépressif, qui est très négatif, très cynique, et encore plus avec lui-même, qui fait énormément d'autodérision. Et derrière, essayer de faire la part des choses. Comment veux-tu ne pas te faire influencer par un discours aussi néfaste qui vient de la personne intéressée ?
Ce qui est vrai, c'est que on nous prête les attributs que nous, dont on se revêt nous-mêmes. C'est-à-dire que si je considère que je suis maladroit, je vais déjà plus me concentrer sur ma maladresse et l'exprimer en plus, parce que c'est comme ça que je m'identifie. Et donc du coup, si je fais une maladresse, bah, je vais être beaucoup plus... je vais en parler ou je vais la manifester. Et donc les gens vont me voir maladroit et donc du coup, c'est une identité qui se renforce. C'est à peu près ce qui t'est arrivé aussi dans ton cas, quoi. Donc il faut faire attention à comment on se parle à soi-même et les attributs qu'on se prête. Et c'est pas être pédant ou prétentieux que de vouloir aspirer à être quelqu'un de meilleur, quoi.
Et complètement. Et avant de faire attention à comment on se parle à soi-même, déjà faire attention à comment on s'écoute. Parce que c'est la base, et même ça, tout le monde ne le fait pas.
Ouais.
Et dans mon cas, avant de me parler à moi-même, c'était juste de m'écouter, en fait. Je me taisais ou je m'entendais pas.
Et aujourd'hui, parce que si t'arrives à avoir le recul, je vais faire la déduction qu'aujourd'hui t'arrives un peu mieux à t'écouter, c'est le cas?
Complètement.
Et du coup, quels critères tu as pour t'écouter? Parce que c'est pas quelque chose de facile quand tu le découvres. Comment tu sais que tu t'écoutes aujourd'hui?
Là, c'est une question difficile. Je sais que je m'écoute, alors déjà parce qu'en fait, dans une position de célibataire, il y a moins cet enjeu de... Enfin, t'es un peu seul avec toi-même aussi, donc de base, tu t'écoutes, mais il faut pas être hypocrite avec soi-même. Je sais quand je m'écoute, en fait, les ressentis, tu les sens au plus profond de toi. Des soirs où, par exemple, t'as envie de sortir, ou plus au contraire, t'as pas envie de sortir, mais t'as un truc de prévu. Il y a 6 mois en arrière, j'étais... dans cette phase de célibat où j'ai envie de sortir tout le temps, j'aurais pas fait, enfin, même si j'avais envie de rester chez moi, je me serais forcé à sortir. J'aurais sûrement pas regretté la décision d'ailleurs. Aujourd'hui, la première intuition est la bonne et j'essaye de suivre ça au maximum. Ça m'arrive de pas aller dans le sens de mon intuition quand il y a l'embarras, enfin, il y a les autres qui sont en jeu. Si je décommande à la dernière minute un pote qui a galéré pour caler un verre avec moi, je vais y aller, je vais apprécier le moment. Mais ça, c'est des petits exemples comme ça. Et puis même, c'est en fait, j'ai une formule justement qui est un peu un critère pour savoir comment, si je m'écoute ou pas. Souvent, quand je m'écoute pas, c'est que j'appréhende le monde avec mon cerveau et que je réfléchis. Donc quand je réfléchis, ça me fait trop de bruit à l'intérieur pour m'écouter en fait. Et quand je m'écoute, je sens que j'appréhende le monde avec le cœur plus et que c'est plus instinctif. Et je fais des actions sans penser à la suivante. C'est très rare. Et j'essaye de creuser ça parce qu'avant, maintenant c'est rare, mais il y a un an de ça, c'était inexistant. Et c'est de plus en plus fréquent, donc tant mieux. Et ouais, c'est vraiment de l'instinct en fait. Tu sens qu'il y a un truc que t'as envie de faire. Tu le fais maintenant sans penser à la conséquence pour plus tard. Je pense que c'est ça le critère de s'écouter.
Tu sais, je fonctionne par des petits adages que je me donne à moi-même. Donc, les périodes de ma vie sont marquées par des adages que je me donne. Et le dernier en date, c'était le corps, c'est. C'est pas avec la tête que tu sais, c'est le corps.
C'est S-A-I-T.
S-A-I-T, c'est pas le corps, c'est en un mot non plus. Ça peut prêter à confusion. Mais le corps, c'est mieux que ta tête, en fait.
Et c'est très intéressant. Et je suis allé voir le film 2 mois au cinéma de Clapiche.
Pas qu'il est génial, j'ai pas vu.
Oui, il est pas mal. Il y a quelques clichés aussi. Mais il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment marqué, parce que pour le coup, le personnage masculin, je m'identifie beaucoup à cette personne qui se retrouve perdue dans Paris, dans une masse de gens tout le temps, sans savoir en fait comment être soi-même en fait, quand t'es noyé dans une fourmilière qui grouille. Et à un moment donné, son thérapeute, je suis trop bilingue.
Thérapeute.
Son thérapeute lui dit, mais en fait là, vous vous contentez de regarder la vie de loin, vous avez le droit de, au-delà de voir la vie, de la toucher, de la malaxer, de la palper. Et en fait, cette phrase-là, elle a, ça a trop fait un déclic chez moi. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'utilise que mon, que ma vue pour appréhender la vie, mais il y a plein d'autres choses, en fait. Mmh. Et le mettre les, mais c'est littéralement, c'est mettre les mains dedans, en fait. Y aller, se lancer, toucher, voir ce que ça fait. Vraiment se percuter à la vie, lui mettre un gros coup de boule sa mère, bah ça je le faisais pas.
Ouais. Mais je pense que bon après le système scolaire a ses mérites aussi hein. Moi je dois une certaine ascension sociale à mes performances scolaires, mais on nous habitue beaucoup à penser on est une tête coupée pendant des années et des années quoi. Et aujourd'hui on en est sorti de ce système scolaire mais il y a pas très longtemps que ça en fait.
Et encore, il y a du chemin à faire, moi, je trouve.
Ouais, de reconnecter avec son corps, surtout si t'as jamais pratiqué un art ou une activité physique, ouais, ça peut être...
Bah, c'est ça, et reconnecter avec soi-même. Je regardais une conférence TEDx l'autre jour, très intéressante, et la conclusion d'une de... Je ne saurais même pas te dire le nom de l'intervenante, le nom de la... Si c'était sur l'infidélité, je crois. Et la conclusion du TEDx, c'était... Mais... Et c'était un twist un peu... Tu le voyais pas venir, et en fait, c'était... À quand l'enseignement du développement personnel dès la maternelle ou le collège, et à quand l'enseignement de la philosophie plus tôt pour que les gens se posent les bonnes questions.
Ouais.
Et dans le cas de la fidélité, ça s'inscrivait dans la question qu'on a évoquée tout à l'heure de dire il faut savoir se connaître soi-même, non pas s'aimer soi-même, mais les deux vont souvent ensemble, pour savoir ce qu'on veut, pour avoir un couple épanoui en fait.
Ouais, bien sûr.
Faut fonctionner tout seul pour fonctionner à deux, en fait.
Ouais, ouais. Mais oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, hein. Et après, moi, je suis assez paranoïaque. Bon, c'est mes études qui ont fait ça, mais l'école était aussi un instrument au service du pouvoir, hein. On voulait pas faire des esprits ouverts, on voulait faire des esprits productifs. Bon, aujourd'hui, il faut faire aussi attention... Ah ça, on est toujours dans cette modalité-là capitalistique où on est des forces de travail avant tout. On n'est pas censé s'émanciper de la machine. Si tu crées du développement personnel ou des outils pour des gens pour qu'ils se débrouillent seuls, c'est dangereux en termes de contre-culture au niveau du pouvoir. Donc bon, peut-être trop paranoïaque, on peut nuancer ça, mais en tout cas, c'est mon intuition. Et juste sur ce que tu disais sur le fait de reconnecter à son corps, la fois où on s'est le plus marré, c'est comme la fois où on a fait les singes dans le salon de Juliette.
J'avais envie de me lâcher un peu, et ça m'a fait beaucoup de bien, ce moment.
Bah ouais, et c'est à ce moment-là, moi, quand j'ai vu à quel point on s'était amusé, mais particulièrement toi, je me dis, les cérébraux, comme toi, comme moi aussi, hein, mais on parle de toi. Bah en fait, redescendez dans votre corps. Essayez d'explorer où se manifestent les tensions, où se manifestent les choix, les joies, où se manifeste l'intuition aussi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'intuition, je suis sûr que t'auras pas une intuition au même endroit pour l'amour que pour le taf. Ou pour des espèces d'intuition globale, où il faut redescendre dans son corps et il faut essayer d'explorer ça. Donc, je pose ça là, ça a l'air facile dit comme ça, ça l'est pas vraiment. Mais essayez de bouger avec votre corps, faites de la poterie, mettez les doigts dedans, enfin vraiment, il faut essayer de... Non mais moi, ça m'a sauvé de faire de la musique ou aujourd'hui de faire autant de sport, c'est une manière de redescendre dans mon corps et ça me fait beaucoup de bien et je pense que c'est ce que tu vis aussi.
Et complètement, et je cherche d'ailleurs des moyens de faire ça. Et à part quand je dansais tout seul dans mon appart, quand je rentre du taf, tu vois, je fais pas grand-chose à l'extérieur quand il y a le regard des autres pour le faire. Mmh. C'est la prochaine étape.
Mais ça, ouais, ça c'est un autre cheminement, mais c'est déjà bien que tu te sentes bien avec toi-même quand t'es tout seul, tout nu. Tu fais l'hélicoptère ?
L'hélicobite, plutôt. Ah non, mais il faut... Utilisons les bons termes, nous sommes des scientifiques.
Scientifiques. Comme a dit Léonard de Vinci, l'hélicobite... Est-ce que tu peux parler de l'expérience ou de l'émotion et ou de l'émotion la plus forte que tu aies ressentie dans ta vie ?
Alors, celle-là, j'ai galéré. Et du coup, j'aimerais bien la twister.
Non.
T'es sûr ?
Vas-y, montre-moi le twist, mais je le refuserai.
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais du mal à identifier une chose dans ma vie parce qu'il y a plein d'émotions différentes. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, machin. Il n'y en a pas une qui est au-dessus des autres. Par contre, je pourrais plus facilement te dire... L'émotion, par exemple, la plus forte que j'ai vécue dans l'année.
Ok, fair enough.
C'est bon ?
Fair enough.
Et donc, c'est quoi ? C'est l'émotion ou
l'expérience ?
L'émotion, l'expérience.
En général, une expérience se retient parce qu'il y a une émotion exactement. Qui lui est rattachée. Donc.
Cette expérience, c'était il y a quelques mois. Il y avait une fille qui me plaisait depuis quelques temps, quelques mois aussi à nouveau. Et en fait, on s'entendait très bien, et c'était pas juste... Enfin, c'était de l'attirance physique aussi, c'est sûr, mais à côté de ça, on avait plein de points communs, on se marrait beaucoup, et c'est la première fille qui me plaisait vraiment, sincèrement, depuis ma rupture. Donc il y avait tous ces enjeux-là. Et je lui avais clairement couru un peu après. Et je lui avais déclaré d'ailleurs ma flamme à demi-mot en lui disant « Bon, écoute, tu me plais pas mal. On était potes à la base, mais moi j'ai du mal à pas espérer plus. »
Épisode 1.
Épisode 1.
Épisode 2. Mal.
Je sais plus. Du coup, je lui avais déclaré ma flamme, mais elle m'avait fait gentiment comprendre que, non pas que c'était pas réciproque, elle avait joué sur un entre-deux, en disant, c'est pas que c'est pas réciproque, c'est juste que c'est pas le bon moment, ou alors que je suis pas sûr de pouvoir combler tes attentes ou tes espoirs. Je veux pas te donner de faux espoirs, c'était un peu ça le résumé en un mot. Et en fait, on avait, donc du coup, on avait beaucoup parlé par SMS, machin. Voilà, c'était un peu pas je t'aime moi non plus, mais c'était un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Et un jour, on est allé boire un verre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un verre qui était prévu. Moi, je calcule toujours tout en avance. Et là, en fait, ce soir-là, j'étais juste parti boire un verre avec un pote. On a pris 2-3 pintes et tout, j'étais un peu bourré. Et à 21h30, elle m'envoie un message, mais en mode pote, tu vois. En mode, ah bah j'ai un date Tinder qui est annulé, vas-y, si ça te dit, on boit un verre, tu vois. Parce qu'on avait dit, ouais, faudrait qu'on aille boire un verre pour parler aussi de tout ça, mais aussi juste pour boire un verre, tu vois. Donc je reçois ça à 21h30, un scénario que j'avais pas prévu, que j'avais pas anticipé, pour lequel j'avais donc aucun plan, alors que d'habitude j'ai des plans pour tout. Avec 3 pintes dans le sang déjà. On se voit, on va boire un verre, enfin on prend un pichet de vin à deux, donc ça s'accumule. On discute, et au cours de cette discussion, elle me dit, je raconte toute l'histoire, je m'en fous si ça fait tout, ça va faire 3 plombes, mais
on est là
et
pour
au
ça,
fil
hein.
de cette discussion, à un moment donné, on revient un peu là-dessus, et elle me dit, non je peux pas, moi je me vois pas avec toi parce que je vais te faire du mal. Et en même temps, elle me dit une phrase qui est pas anodine, qui était avec le recul, je trouve que je me suis un peu laissé manipuler sur quelques points, mais bon, ça c'est un détail. Et elle me dit, en fait, je te vois pas comme un copain, je te vois comme un potentiel mari et comme le futur père de mes enfants. Alors qu'elle venait de me dire, il se passera rien entre nous à ce moment-là. Donc c'était un peu chelou, tu vois, c'était souffler le chaud et le froid, mais elle savait très bien faire et je pense qu'elle le sait. Et je pense qu'elle écoutera ce podcast aussi, qu'elle se reconnaîtra.
Bonjour.
Bonjour madame. Non, mais c'est. Elle, je pense qu'elle est forte. Elle est très douée en relation sentimentale, je pense. Beaucoup à apprendre d'elle. Et voilà. Donc, on finit notre pichet de vin. Le bar ferme plus tôt que prévu, genre à 22h. Pinaise. Donc, gentiment, le barman nous offre un shot. On prend notre shot, c'est gentil. Après, il nous dit, oh, bah, vous l'avez bu vite. Il nous sert un deuxième shot.
Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment le métier des barman, hein, de nous faire en sorte qu'on se pécho. Vous nous entendez, les barman?
À aucun moment, j'ai dit qu'on s'était pécho, par contre.
Ah non, mais le but du barman, c'était que vous vous péchotiez.
Ok. Et donc là, du coup, deux shots de plus qui s'ajoutent à l'addition de mon alcoolémie. Donc, et je pense que c'est important de reposer le contexte. Je suis pour la première fois de ma vie quasiment dans une situation que j'ai pas prévue. Et je commence à être bien ivre. On va dans un deuxième bar, on prend un deuxième pichet.
Oh merde. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Le lendemain, c'était très dur.
L'abus d'alcool...
est dangereux pour la santé.
Merci Théo.
C'est une question que je disais aussi. On va dans un deuxième bar, deuxième pichet. Très drôle d'ailleurs parce que t'as le fameux clin d'œil du barman. En mode, ah, t'es avec une fille, machin.
Bah alors ça, c'est viriliste.
Non, mais attends, c'est pas fini.
Ah ouais, pardon.
T'es avec une fille, on était les deux dans le bar et tout, ah ok. Sauf que le clin d'œil du barman, moi je l'ai pas vu, il l'a fait à ma pote. En mode, tiens, bonjour mademoiselle, bah, putain, tu vas le pécho ce soir, c'est sûr. Et c'est cool, je trouve d'ailleurs, que ce soit dans ce sens-là.
J'ai pas encore d'avis.
Donc on discute de tout et de rien, là pour le coup on avait clos le débat un peu sentimental, j'ai des sentiments pour toi, je comprends pas pourquoi on se donne pas une chance alors que, voilà, t'as l'air d'hésiter, donc si t'hésites c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et je reviens sur ce qu'elle m'a dit à un moment donné. J'étais un peu là, j'étais en autopilote. J'étais en autopilote, mais j'avais beaucoup de réparties. Et donc je lui dis, mais en fait, je reviens juste sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je suis le père de tes futurs enfants et peut-être ton futur mari. Enfin, c'est comme ça que tu me vois. Et je lui dis donc, mais en fait, tu veux qu'on fasse comme dans How I Met. Dans How I Met, il y a deux personnages qui se font un pacte. S'ils sont tous les deux, donc c'est un mec et une fille qui sont potes, s'ils sont tous les deux célibataires à 40 ans, ils s'épousent parce que ce serait trop bon délire, ils s'entendent trop bien. Et je lui ai dit, mais c'est ça que tu veux en fait j'étais un peu offensé. Et elle me dit, et là elle me tend la main et elle me dit, En fait, 40 ans, non. Parce que tu vas y perdre au change parce que j'aurai les seins qui tombent. Mais 30 ans, oui. Et elle me tend la main. Sous-entendu, si à 30 ans, on est tous les deux célibataires, on se marie. Et là, j'étais un peu... Et là, pour le coup, j'ai complètement touché le monde avec le cœur, je sais pas, toutes les métaphores qu'on a dit. J'ai répondu d'instinct. J'ai regardé sa main. Je l'ai regardé, elle, un peu avec dédain. Et je lui ai dit, c'est hors de question que je serre cette main ce soir. Et elle, je pense que c'était aussi la première fois que je lui disais non, un peu, à cette fille. Elle était un peu décontenancée. Elle retire sa main et elle me dit, bah pourquoi ? Et je la regarde, et avec une assurance que j'avais jamais eue, je lui ai dit, parce que je pense que je vais te pécho avant tes 30 ans. Comme ça. Donc c'était rigolo et tout. Et pour le coup, j'étais sûr de moi, complètement ivre et tout. On discute de tout et de rien. Et à un moment donné, il y a eu un peu un twist dans la conversation, où moi, j'ai voulu qu'il se passe un truc. Du coup, j'ai arrêté de parler. Parce que, en fait, quand t'arrêtes de parler, ça met l'autre personne un peu mal à l'aise. Et forcément, c'est un nouveau truc à vivre et les gens sont décontenancés. Donc, j'ai arrêté de parler, elle a arrêté de parler. Et elle voulait... Donc, il y avait un silence un peu gênant que j'aurais pu tenir 2 heures sans briser ce silence. Je voulais vraiment que ce soit elle qui le brise. Et elle me dit, il faut qu'on arrête de se regarder comme ça. Et à ce moment, au moment où elle prononce cette phrase, je vois exactement, c'est limpide. Alors que pourtant, j'ai 3 grammes dans le sang. Je sais exactement ce que je dois faire pour l'embrasser. Elle me dit, faut qu'on arrête de se regarder comme ça. Donc, je prends ma voix la plus innocente possible. Et je lui dis, ah oui, pourquoi on devrait arrêter de se regarder comme ça? Et elle me dit, un peu timide, alors que d'habitude, c'est elle qui a de l'aplomb. Elle me dit, bah, parce que si on continue de se regarder comme ça, on va s'embrasser. Et je la regarde et je lui dis, est-ce que ça serait une mauvaise chose? Et elle me dit oui. Du coup, je la regarde et je lui dis, il n'y a qu'une façon de le savoir. Et là, je l'embrasse. Merci. Et c'était un très beau baiser. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère qu'elle aussi. Mais c'était très cool. Surtout que moi, du coup, c'est un baiser aussi que j'attendais, qui me faisait envie. Et ensuite, bah, c'était un peu... Déjà, c'était mignon. Tu vois, il y a des baisers qui sont mignons, d'autres qui sont pas mignons. Là, c'est le baiser où après, t'es tous les deux en mode... Je suis content que ça se soit passé, mais c'est nouveau, tu vois. Et après, on sort du bar, et tu sais, on avait 50 mètres à faire jusqu'au métro, mais les 50 mètres, tu les fais en une demi-heure, tellement tu fais des pauses à chaque lampadaire pour t'embrasser. Et voilà, c'était un très beau sentiment. Il y a eu plein d'autres choses qui ont fait que cette expérience s'est dégradée par la suite, mais je retiens du coup, là, je raconte que la partie positive un peu. Mais quand on s'est séparé au métro, parce qu'on s'est séparé au métro, je suis rentré chez moi et j'avais un grand sourire et j'étais heureux. Et j'étais vraiment, là, en termes d'émotion, bah, j'étais vraiment joyeux, quoi. Et pas spécialement, enfin, le baiser y était pour beaucoup, la fille y était pour beaucoup, mais aussi parce que moi, pour la première fois depuis longtemps, déjà, je m'étais écouté, enfin, j'avais agi avec le cœur plutôt qu'avec la tête, parce que j'avais osé embrasser une fille qui me plaisait. Parce que j'avais eu un désir pour une fille qui me plaisait vraiment, et c'était la première fois que ça m'arrivait depuis ma rupture. Il y avait tout ça mis ensemble, faisait que j'étais joyeux de ouf en rentrant, quoi. Et c'était trop trop cool, quoi. Voilà.
Ok. Pendant que tu parlais, je me disais, l'alcool a joué un grand rôle, en fait. Non pas que sans l'alcool, vous y seriez pas arrivé. Mais l'alcool, on peut en dire ce qu'on veut, premier poison, hein, en termes des drogues et tout, ouais. Il faut le rappeler. Je te sers un martini.
S'il te plaît, mon verre est vide.
Je vais vraiment le faire en plus.
Comme mon verre est plein, je le vide. Comme mon verre est vide, je le plains.
Oh, t'es poète, hein.
Je suis poète.
Rouge sur blanc.
Ah, rouge sur blanc, tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge.
J'ai cru que t'allais faire un twist et me dire un autre truc.
Non, non, je suis très rigoureux. Rigoureux.
Tu sais que y a aucun autre mot qui rime avec entre rouge et bouge. C'est sûrement pour ça. Ça se trouve, le dicton est totalement faux. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi. Non, allez, cherche. Hein, je te laisse. Bon, non, parce qu'après, tu vas pas m'écouter. Mais si tu veux, je te fais le défi après. Y a aucun autre mot. Donc du coup, ça se trouve, on nous ment. C'est juste pour faire une rime.
Ok.
Et je me disais, du coup, bon, l'alcool a beaucoup joué. C'est aussi une manière de revenir dans son corps, en fait, de court-circuiter la tête, et c'est pas pour rien qu'on dit je me suis éclaté, je me suis arraché, il y a quelque chose où on essaie de détacher quelque chose de nous, et je pense que c'est ce côté très cérébral.
Et la seule chose qui marche encore à peu près quand t'es vraiment ivre-mort, c'est ton corps, et vraiment ça marche à peu près, et t'as pas le choix de l'écouter. Et tu vois, quand tu dis vous seriez peut-être pécho sans ça, je suis même pas sûr.
Peut-être.
C'est une réponse. C'est impossible de trancher, on saura jamais.
C'est vrai.
Mais en tout cas, ouais, ça. En tout cas, moi, ça m'a aidé à me reconnecter, comme tu dis, avec mon corps et à agir surtout et à pas réfléchir et à répondre ce qui me sortait par la tête. Si j'avais été sobre, juste lui dire, je pense que je vais te pécho avant mes 30 ans, enfin avant tes 30 ans, peu importe. Je l'aurais jamais fait parce que je me serais dit, mais quelle outrecuidance de ce garçon.
Oh, il est bien cavalier.
Oh, mais mon Dieu, c'était incroyable. Quel manque de respect.
Mais je me dis, est-ce que c'est pas ça le travail qu'on a à faire dans la vie, c'est essayer d'être bourré quand on est sobre.
Bah, exactement.
Non, mais en vrai,
c'est l'ivresse contrôlée.
Tellement plus joyeux. Bon, sauf ceux qui ont l'alcool mauvais, mais ça, c'est trop triste. Je suis désolé pour vous. Voilà.
Moi, ça. Et ceux qui ont l'alcool triste, c'est mauvais. Waouh, on a mis le doigt sur quelque chose.
Dernière question, mon cher Théo. Hop là, je tape dans le micro au passage.
Coup de boule au micro, bim.
Bien, qui c'est tout. C'est pas d'où je viens.
Eh, hey, pourquoi ça m'émère.
Ça m'émère la pupute.
La racaille qui bégaye.
Alors, pour tous les bègues, désolé. Mais ne fais pas de podcast.
Pardon.
C'est quand même une blague, ça.
Ah, les mêmes connards, tous les deux.
Des gros connards. Quelle est la relation qui t'a le plus marqué?
C'est trop dur d'être sérieux d'un coup, là. La relation, n'importe laquelle de relation.
Oh, mais tu sais laquelle je veux parler.
La relation romantique. À ma mère.
Non, oui, la relation romantique.
Voilà. Parce que moi, j'ai bien lu tes questions. Et il me semble que la question, c'est...
Ah, donc tu les as bien lues, mais tu y as pas bien répondu.
Ah, j'ai pas dit que ça m'a intéressé, j'ai dit que je les avais lues.
Ouais, fort bien. Non, on fait des efforts pour structurer une émission, comme sur France Inter. Non, mais parce que je travaille à France Inter, moi, maintenant.
Ah, l'enfoiré. Attends, il y a jamais mis les pieds, c'était un appel vocal.
C'était un appel vocal, mais peut-être que j'étais dans le couloir.
Un appel, c'est toujours vocal, ça m'énerve, j'ai fait un pléonasme.
Mais des fois, ça fait un FaceTime.
Oh.
Bref. iPhone.
Fait du placement de produit. On est sponsorisé par Apple, maintenant.
Vas-y.
La relation romantique qui m'a le plus marqué, dans tous les sens du terme et en toute logique du terme, tu sens comme je noie le poisson.
Ouais.
C'est la relation avec mon ex qui a duré 5 ans et demi.
Est-ce que tu peux nous en parler? Et particulièrement, est-ce que tu pourras nous parler de ta rupture? Mais d'abord, est-ce que tu peux parler des faits saillants de ta relation, puis après des faits saillants de ta rupture, de cette relation?
Ouais. Relation de 5 ans et demi, des hauts et des bas, comme toutes les relations, je pense. Avec le recul, peut-être plus de bas que de hauts, mais dans le moment vécu, il y en avait autant pour moi. Enfin, voilà. On s'est rencontrés à 19 ans, on est restés 5 ans et demi ensemble. Au bout de 6 mois, je crois même pas, on habitait ensemble. Ce qui, en fait, à 19 ans et demi pour moi, 18 ans et demi pour elle... c'est très jeune, mine de rien. On a vécu ensemble pendant 5 ans, ou presque. Il y a eu donc effectivement des hauts et des bas. Elle était souvent triste et malheureuse. Je pense que tous les deux, on était un peu... on couvait une dépression. Elle peut-être un peu plus que moi. Et du coup, on se tirait un peu vers le bas d'un point de vue dépression. Je sais pas si ça fait sens. On était aussi très fusionnels, copains comme cochons, on se marrait beaucoup, parce qu'il y a quand même plein de points positifs. Je pense qu'on s'aimait beaucoup, du moins au début, en ce qui la concerne. Et en fait, on était donc très fusionnels. Très vite, elle a montré, c'était pas vraiment des doutes, mais des moments un peu de faiblesse affective ou même envers elle-même, des moments de, comme je dis, de dépression un petit peu, qui étaient plus prononcés que moi. Donc dans ces moments-là, j'étais son oreille attentive, je la conseillais, je la consolais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est là où moi j'ai commencé à taire mes besoins, mes sentiments, mes émotions, pour laisser plus de place à l'écoute des siennes, en pensant que c'est comme ça que je devais faire fonctionner ma relation, en écoutant ses problèmes parce qu'elle en avait plus. Donc c'était des choses, des chagrins de tristesse, soit parce qu'elle avait l'impression qu'elle m'aimait plus, et je dis elle avait l'impression parce que je pense que même elle savait pas si c'était avéré ou pas à l'époque, soit parce que en termes de libido il y avait des pics et des moments de rechute à certains moments, donc elle aussi, je pense que c'est aussi une cérébrale et qu'elle réfléchissait beaucoup et qu'elle se disait j'ai une perte de désir pour mon copain qui, se dit en passant, était aussi quasiment dépressif et qui se dépréciait vachement. comme je le disais tout à l'heure. Donc ça aide pas à avoir une belle aura et être désirable en fait. Donc elle interprétait ça en disant mais si je le désire plus, peut-être que je l'aime plus, mais voilà. Et en fait au bout de 5 ans et demi où elle était, enfin peut-être pas 5 ans et demi de pure tristesse, mais durant plusieurs années où elle était plutôt triste en termes de mood général, je pense que petit à petit, elle a essayé d'être mieux et d'éliminer, de changer des choses petit à petit. Et en fait, à la fin, elle s'est retrouvée à un moment où la seule chose qu'elle n'avait pas encore changée dans sa vie, c'était moi. Mmh. Donc, elle a voulu changer ça. À l'époque, du coup, donc, belle transition avec la rupture, elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. Je ne sais pas trop si elle l'a dit comme une excuse ou si juste, tout simplement, elle avait beau m'aimer, elle était malheureuse et ça justifiait pour elle le fait de ne plus être avec moi, ce qui est complètement légitime aussi.
Elle te l'a dit comme ça.
Ouais.
Un soir, elle t'a dit « je t'aime plus ».
Alors, ça s'est pas passé comme ça, ça, en claquant des doigts. C'est un soir, je voyais très bien qu'elle était pas bien. Tu veux vraiment que j'entre dans l'histoire de rupture ? Un soir, un soir, ça se voyait qu'elle avait pas bien, mais moi, je la voyais souvent, des fois, comme ça, un peu triste, où je sentais qu'elle avait besoin de parler, de discuter, de me dire des choses, et qu'elle osait pas le faire parce qu'elle avait peur de me faire du mal. Donc on se couche, je lui dis bon bah je sens que t'as un truc à dire, machin, je lui tire un peu les vers du nez, mine de rien, parce que enfin c'est une approche aussi de la faire parler, de la faire s'ouvrir. Et elle me dit t'es sûr de vouloir avoir cette conversation maintenant? Je voulais avoir cette conversation lundi, on était le vendredi soir je crois, ou un truc comme ça. Et en fait ce week-end-là il y avait ses parents qui venaient nous rendre visite. Donc là, je me suis dit, ça sent mauvais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, c'est pas du tout rigolo. C'est que j'ai tellement... ce moment-là de la rupture, ça a tellement été un peu un traumatisme pour moi que j'ai eu du mal à m'en rappeler. Je saurais pas m'en rappeler dans les détails. Mmh. Un peu comme un syndrome post-traumatique, finalement, où tu te souviens pas de tout parce que c'est trop dur de s'en souvenir. Mais je sais qu'en fait, notre discussion, donc bon, c'était bon, bah ok, faut qu'on parle. Et qu'elle me disait, bah, je crois que je t'aime plus et qu'on peut plus continuer comme ça. Dans les grandes lignes, parce que c'était peut-être pas ces mots-là exactement. Mais voilà, je ne t'aime plus et il faut qu'on arrête. Donc moi, j'étais très triste, mais incapable de pleurer. Alors que j'en crevais d'envie, clairement. Et en fait, tellement déjà pris de court, tellement sur le cul en fait que j'osais même pas remettre en question. J'étais la première chose que je lui ai dit quand je l'ai laissé parler pendant longtemps pour qu'elle me dise je t'aime plus et il faut qu'on arrête. La seule chose que je lui ai demandé, la seule question que je lui ai posée, c'est est-ce que t'es sûr et est-ce que tu changeras pas d'avis? Elle m'a dit oui, je serai sûr. Enfin, je suis sûr. Et je lui ai dit du coup, bon bah si t'es sûr de toi, je vais pas te convaincre du contraire. Et ça me rend très triste. Et voilà. Et à partir de là, j'ai du mal à me souvenir exactement les tenants et les aboutissants. Et donc ça, c'est fini. Sauf qu'on vivait ensemble. Donc il y a eu quand même presque un mois de coloc. Et être en coloc avec son ex, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Sachant qu'elle, en même temps, je pense qu'elle culpabilisait vachement aussi. Parce que moi, je l'aimais encore énormément. Et pour le coup, mon amour n'a pas déprécié au fil des années. Au contraire, presque. Donc elle devait sentir un peu, et c'est peut-être ça aussi qui a précipité les choses de son côté, c'est qu'elle devait se sentir de plus en plus coupable de voir que moi je l'aimais toujours autant, si ce n'est plus, et qu'elle c'était de moins en moins. Donc ça a pu précipiter les choses aussi. Et du coup j'étais en coloc avec elle pendant quelques semaines, donc elle dormait sur le canapé, elle avait établi son fort là-bas, on se parlait très peu, mais en même temps c'était très cordial. Parce que moi très vite je me suis dit, j'ai pas réussi à être... le copain idéal, je peux encore être l'ex idéal. Donc de toute façon j'étais énervé, j'étais en colère, mais c'était légitime. Enfin, il y a un moment donné, une personne qui t'aime plus, elle a pas à se forcer à rester avec toi, même si je sais pas encore une fois si vraiment elle le disait parce que moi c'était plus facile à comprendre pour moi, ou si elle peut-être qu'elle m'aimait encore, mais juste qu'elle était juste malheureuse et qu'elle voulait partir, quoi. Et du coup, c'était un peu difficile, on se parlait très peu ou très cordialement. Et quand t'as vécu 5 ans et demi avec une personne, enfin 5 ans avec une personne et que tu la fréquentes depuis 5 ans et demi, je sais pas si t'as eu des relations aussi longues, toi.
Non, donc justement, ne dis pas tu.
Ouais, pardon. mais là, pour le coup, je pense que c'est une généralité qu'on peut faire.
Bah non, c'est ton expérience, mec.
Je pense qu'en ayant vécu 5 ans et demi avec une personne, dans un cadre d'amour, de couple, passer du jour au lendemain au cadre de potes, et encore potes, c'est un grand mot, parce que quand même, moi, j'étais un peu pas énervé, parce que je, comme je le disais, je prenais toujours sur moi, je montrais pas mes sentiments, je laissais pas ça monter à la surface, j'étais pas énervé, j'étais juste triste, c'était pas non plus mon monde qui s'arrêtait, c'était juste un truc cool pour lequel j'avais encore envie de me battre, avec une personne qui, elle, n'avait plus envie de se battre. Tu peux pas forcer, je ne pouvais pas la forcer à se battre. Même si j'ai essayé un peu, je lui ai fait une lettre en disant « mais je comprends pas en fait, c'est trop abrupt, j'ai l'impression que c'est un constat de dire que peut-être tu m'aimes plus, mais entre-temps, il n'y a pas cette phase où on discute, on essaye de comprendre ce qui va pas, ce qui peut aller mieux. Il y a à aucun moment donné, en fait, j'ai pas eu l'impression qu'elle, elle essaye de sauver la chose. Peut-être que pendant très longtemps, personnellement, sans m'en parler, elle a essayé de sauver la chose, ouais. Et voilà. Et que pour elle, du coup, elle avait déjà essayé de se battre. Mais en tant que couple, on n'avait pas essayé de se battre. Et c'est ça qui m'a un peu frustré. Donc, je lui avais fait une lettre. Elle avait répondu avec une autre lettre, mais qui était écrite vraiment comme une réponse. Par volonté de me répondre sans vraiment qu'il y ait de sentiments ou d'émotions derrière. Elle m'a tendu la lettre parce qu'elle a mis du temps à me répondre en disant « Bon, j'ai pas été très inspiré. Désolé, quoi. »
Pourquoi une lettre ?
Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas pu lui dire en face sans oublier certaines choses. Sans aussi peut-être pleurer.
Et ça aurait fait quoi de pleurer ?
Sur le moment, c'est plus d'un point de vue purement rationnel, ça m'aurait pas permis de déballer tout ce que j'avais à dire, ça m'aurait interrompu.
Mais est-ce que c'était vraiment l'important de déballer tout ce que t'as à dire plutôt que de déballer tout ce que tu avais à ressentir ?
Les deux allaient ensemble parce que dans ma lettre, j'ai mis beaucoup de ressentiments. Ouais. Je l'ai là.
Mais tu viens de dire que ouais. Lui dire en face, ça t'aurait fait pleurer et tout à l'heure, t'as dit j'avais envie à en crever.
Sur le moment, oui. Mais c'est, là, la lettre, c'était pas dans... C'était quelques semaines après. C'était au moment où j'ai déménagé, je crois.
Ouais, mais il n'empêche.
Je pense qu'à ce moment-là, cette lettre, c'était plus pour prendre du recul et je voulais qu'elle soit rationnelle, quelque part. Moi, j'avais besoin de comprendre, en fait. J'avais besoin de comprendre sa décision. Et pour comprendre sa décision, dans ma façon d'amener mon argumentaire de « j'ai besoin de comprendre », je pouvais pas me permettre de laisser mes sentiments... Enfin, quoique, il y en a des sentiments, mais voilà, je voulais pointer rationnellement pourquoi j'avais besoin de clore cette histoire.
Je comprends, et en même temps, la rationalité de dire à quelqu'un pourquoi tu m'aimes plus, c'est comme si quand t'es en couple et heureux, tu dis pourquoi tu m'aimes. Et quelque chose où en fait, la réponse, ça sera jamais la bonne. Et donc, du coup, régler ta rupture, ça aurait été de la régler émotionnellement et pas rationnellement.
C'est vrai.
Mais évidemment qu'à ce moment-là, tu t'en es pas rendu compte. Hein, c'est pas. Mais c'est juste pour pointer du doigt que de comprendre, c'est
ouais,
juste
non, mais t'as raison.
L'autre consolation de la tristesse, quoi.
Et en même temps, je pense que je me suis aussi réfugié dans mon cerveau plutôt que dans mon cœur parce que ça faisait trop mal de se regarder, d'apprécier ses sentiments.
Mm.
Et donc on a fini. Heureusement, j'ai trouvé un appartement assez vite. Donc on a déménagé. Et c'est ça aussi qui est chiant quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, c'est que. T'as encore des trucs qui te lient. Moi, j'avais pas plus envie de lui parler en fait. Et j'avais plus envie de lui parler. Et j'étais encore connecté à elle par des soucis de dettes qu'on avait envers EDF, ouais. De taxes d'habitation qu'on devait payer dans quelques mois, de cautions qu'on allait nous rendre, enfin tout ça. Et un moment très fort que j'ai vécu à ce moment-là, c'est les derniers cartons, le dernier aller-retour que j'ai fait entre mon ancien appart avec elle et mon nouvel appart. Elle était dans l'appart et on s'est dit vraiment au revoir, quoi. Je quittais l'appartement, j'allais pas y remettre les pieds, à part pour l'état des lieux. Elle avait pas encore trouvé d'appart, donc elle vivait un peu dedans, et voilà. Et on s'est fait un câlin et elle s'est mise à pleurer. Et pas moi. Et encore à ce moment-là, c'est moi qui l'ai consolée en lui disant que ça allait aller. Alors que, objectivement, c'est moi qui m'étais fait un peu larguer, pas comme une merde, mais pas loin quand même. Et je me suis dit, enfin, sur le moment, non. Sur le moment, je me le suis pas dit, mais maintenant, je me le dis, mais. Même dans ce moment-là où c'est elle qui te quitte, où c'est toi qui es triste comme les pierres, enfin, sûrement qu'elle était triste aussi un peu, mais c'est elle qui pleure et c'est toi qui n'oses pas pleurer parce que tu préfères lui faire un câlin et la réconforter. Et c'était assez déchirant que de se dire au revoir comme ça, de sangloter, de pas trop avoir envie de pleurer, elle non plus. Et c'était, ouais, ça c'était, je pense que c'était le plus dur finalement. Plutôt que la discussion où on dit qu'on rompt, c'était le moment où j'ai claqué la porte.
Ouais. J'ai une remarque et une question. Ce que tu as vécu dans ta relation, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un triptyque sauveur, victime, bourreau. Il y a d'autres grilles de lecture, mais l'analyse transactionnelle permet aussi de comprendre ces grands archétypes. Toi, tu as été sauveur pendant votre relation et ensuite dans votre rupture jusqu'à ce dernier câlin, en fait. Et elle a été victime, quelque part. C'est la victime qui, en fait, a mal, qui doit être sauvée, etc. Et elle s'est transformée en bourreau parce qu'elle t'a quitté. Puis ensuite, elle est revenue dans son mode victime. Et c'est, en fait, votre dynamique, elle est fondée là-dessus. Et c'est ça qui tu voulais intervenir, mais juste, ça me fait penser à une question. En quoi... qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être un ex idéal et de maintenir le même rôle que tu as eu pendant ta relation qui a fait qu'elle a terminé?
J'y reviendrai, mais ouais. Juste oui, sur les rôles. C'est marrant parce que spontanément, quand tu en parlais, je m'étais dit que j'étais la victime dans l'histoire.
Mais bien sûr, mais c'est ce qui se passe en fait. Parce qu'elle, elle est devenue bourreau, tu es devenue victime. C'est ça l'analyse transactionnelle. Et c'est pour ça que c'est jamais sain de prendre un rôle et on a envie de revêtre le rôle du sauveur. Plus facilement, en tout cas moi, c'est le rôle que je prends plus facilement. Mais le pendant de ça, c'est qu'une fois que tu sauves la victime, elle t'en veut de l'avoir aidée et elle se transforme en bourreau qui te victimise.
Et donc pour répondre à ta question qui était pourquoi j'avais besoin ou envie d'être l'ex idéal, en fait, là je suis très lucide là-dessus, c'était très égoïste de ma part, c'est que je voulais être irréprochable. Être l'ex idéal, c'est être irréprochable. Je voulais pas qu'elle ait un seul point d'accroche pour se dire un jour, j'ai bien fait de le quitter.
Et pourquoi pas?
Parce qu'il en allait de mon ego, de mon amour-propre que j'avais oublié pendant pas mal de temps. Et cette fois-ci, je voulais déjà moi j'étais parti pour me construire à nouveau. Et je me disais ok, bah elle m'a quitté. C'est pas moi le perdant dans l'histoire. En étant l'ex idéal et puis surtout déjà en acceptant, il y avait aussi un côté un peu altruiste quand même où en étant l'ex idéal, je la faisais moins culpabiliser.
Et pourquoi?
Pourquoi je la faisais moins culpabiliser?
Mais pourquoi choisir de moins la faire culpabiliser?
Bah, il y a plusieurs explications. La première, ce serait le réflexe. Quand t'as passé 5 ans et demi, justement, à prendre soin de la personne.
J'ai pas passé 5 ans et demi.
Quand j'ai passé. C'est insupportable. Après avoir passé 5 ans et demi avec la même personne, et à l'avoir protégée, avoir pris soin d'elle, c'est juste naturel, c'est un réflexe que j'avais de continuer à le faire. Les habitudes ont la vie dure. J'allais dire, on l'a dans l'ongle, mais non.
Aïe, le parquet.
Donc, ça, c'est la première explication, et je pense qu'il y a l'explication majoritaire. De l'autre, ne pas la faire culpabiliser parce qu'en fait, ça m'aurait rien apporté dans cette rupture.
Bah, peut-être que ça t'aurait apporté un peu d'honnêteté vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle aussi. Je dis pas qu'il faut se venger, en fait, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as joué un rôle jusque dans ta rupture et tu m'étonnes que t'arrives pas à la digérer ou à pleurer ou à, mais c'est parce que t'es même pas honnête avec elle ou avec toi pour commencer parce que vous êtes dans une dynamique de faux semblants. Bah, désolé, c'est vraiment des jugements que j'appose, mais de ce que tu dis, t'as encore joué un rôle. C'est juste ça que je constate.
C'est vrai. En même temps, quand je te dis que ça n'aurait rien apporté, c'est que pour moi, la faire culpabiliser, ça aurait été lui dire tu es coupable et je suis victime. Alors qu'en fait, je pense que c'est très subjectif. Que si elle était là ce soir, peut-être elle aurait une version.
Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. En fait, la faire culpabiliser, c'est une vision de l'esprit, c'est une vision de ton jugement. Ce que tu peux faire, parce que tu peux pas t'attendre à provoquer des choses de manière certaine chez les autres, mais t'aurais pu te dire, moi, j'ai envie d'être honnête. Plutôt que de dire, je vais l'empêcher de culpabiliser. Tu ne sais même pas si elle culpabilise. Tu sais même pas si en te comportant autrement, elle aurait culpabilisé. Tout ce que t'aurais pu te promettre, au moins, c'est de te dire, je vais me comporter comme j'ai envie de me comporter. Et tu sauras jamais maintenant ce que c'est que d'être honnête dans ta rupture.
À part te dire, effectivement, j'aurais pu.
Ouais, mais
à ce moment-là, j'ai fait ce choix-là.
Bien sûr. Ah non, mais c'est pas pour le revisiter. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as choisi de jouer un rôle pendant toute ta relation. T'as choisi de jouer un rôle pendant ta rupture. Et aujourd'hui, il faut que t'arrives à te défaire des rôles. Et encore tout à l'heure, on parlait de l'anecdote où faut que tu joues un rôle ou faut que tu sois honnête. Bah, en fait, c'est toujours le mode binaire. Et j'ai l'impression que tu penses que t'es perdant à chaque fois que t'es honnête avec toi-même.
Non, parce que la vie, au sens très court de cette dernière année, justement, a réussi à me le prouver. Par contre, je pense que, oui, c'est binaire, qu'il faut savoir s'amuser des rôles. Et pour s'amuser des rôles, il faut se les approprier pour mieux réussir à se retrouver soi-même, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Pourquoi pas? J'ai une perception différente.
Il y a une différence pour moi entre jouer un rôle, parce que c'est un rôle qu'on subit, qu'on se rend pas compte qu'on a, ce qui a pu être le cas dans ma relation. Et aujourd'hui, l'exemple que je te donnais la dernière fois, jouer un rôle volontairement, parce que c'est ce qu'on a envie de faire sur le moment donné. Et tu vois qu'on parlait de s'écouter soi-même, ça peut être des moments avoir envie d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Et du coup, quand je joue un rôle dans ce sens-là, parce que j'ai envie de me prendre au jeu, littéralement, et de me faire passer par quelqu'un que je ne suis pas, de refléter une image différente, c'est que j'en ai envie au fond de moi et que je suis honnête avec moi-même. Ce soir, j'ai envie d'être différent.
Du moment que t'es ta propre référence, moi, ça m'ira toujours.
C'est très gentil de ta part.
C'est quoi que je sens sous la table? Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'être mise à nu.
Merci à toi de m'avoir déshabillé.
Oh, comment tu t'es senti dans cette configuration?
Bah, très bien. Et ça fait un peu un bilan, parce que mine de rien, cette rupture, j'ai pas la date exacte en tête. Mais ça doit faire presque pile poil un an,
ouais,
en
fait. Un an.
À peu de choses près, donc c'est un beau... Je vais pas dire conclusion, parce que c'est pas fini. Mais c'est un beau point de parcours.
Ouais, c'est vrai.
Bah, écoute, je suis content.
Ravi d'avoir pu t'offrir ça. J'espère aussi que le format aura plu aux applaudiqueurs. En tout cas, moi, il m'a plu. Ça m'a fait du bien aussi de pouvoir creuser ces questions-là, même si on en parle. Mais là, d'avoir un vrai temps dédié, je trouve ça cool. Du coup, merci beaucoup, Théo. Dans 2 semaines, ça sera la configuration exactement inverse. Toi qui te retrouves à poser des questions et moi qui y répondrai avec joie. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce format-là, sachant qu'on essaie de trouver des nouvelles modalités pour faire évoluer le podcast et qu'on est toujours preneur de votre avis. En tout cas, en attendant, on vous applaudit avec le cœur et on vous dit à bientôt.
Et on vous fait des gros bisous.
Bisous.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.